On est petit, hein. C'est vrai qu'on est vraiment petit. Mais c'est vrai que aussi petit qu'on est, on est dans une grande main toute puissante qui nous protège. Et on peut vraiment compter sur cette main puissante qui est celle de Dieu. C'est tellement rassurant de savoir qu'il nous tient dans ses mains. Et encore aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, même les gens du monde en parlent. Ils s'aperçoivent que quand même ça tourne pas rond. Et nous, on peut rester en paix parce que on sait qu'on est dans la main de notre Sauveur. Cette main sûre. Et pour revenir au jeûne d'hier, j'ai beaucoup aimé ce moment qu'on a passé ensemble. J'oublie que je suis responsable des jeunes. J'ai fait comme eux. J'ai patiné comme eux, comme un petit jeune. Et je me suis éclaté comme eux. Et c'était super. Et un moment qui m'a beaucoup touché, qui est en lien avec le chant qu'on a chanté, que Alexandre a demandé de chanter, hein, quand on s'est retrouvé ensuite dans l'église, on a chanté ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Et il y avait tous ces jeunes qui étaient là. Et j'ai été ébahi du niveau sonore du chant. Et c'est pas l'accompagnement musical hein, qui allait à fond, comme on peut trouver à des rassemblements de jeunesse ailleurs. Il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas une sono qui crachait des décibels dans les oreilles. Quand je parle du niveau sonore, c'était le niveau sonore de tous ceux qui étaient là et qui chantaient. Et il n'y avait pas beaucoup d'adultes. C'était les jeunes et les ados qui chantaient manifestement de tout leur cœur. Et d'avoir eu ce message, j'étais aussi ému que toi. Quand Alain m'a fait un SMS ce matin pour me demander d'ajouter ce chant, et il croyait que c'était moi, mais c'était l'autre Manu qui faisait la présentation. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, t'es empêché de venir ce matin, Alain? Et il m'a répondu, non, je te transmets un message d'Alexandre. Alors là, c'était une autre dimension. Ah, je me suis dit, Alexandre, il nous fait connaître un message de... Voilà, il veut nous faire savoir, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Alors là, je me suis dit, waouh, il se passe des choses. Franchement, ça vaut le coup de passer du temps pour les jeunes, parce que je ne dis pas forcément que c'est suite à ça, mais ça fait sûrement partie du cheminement qui fait qu'un jour, ils disent, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est waouh, hein. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand il y a un pécheur qui se repent, quand il y en a un qui décide de suivre Jésus. Et nous aussi, dans notre cœur, il y a beaucoup de joie quand il y a quelqu'un qui se décide à suivre Jésus. Et c'est marrant parce que c'était un peu la pensée, la conclusion d'hier dans un témoignage d'un frère. Mince, j'ai oublié son prénom. Dimitri. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, la fin de ton témoignage, c'est la fin de ma prédication de demain matin. Oui, on y reviendra donc. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Mais ne partez pas, hein. Il y a autre chose avant. Ah mais c'est émouvant quand même de voir que le Seigneur, il agit. Il agit parfois dans le secret, beaucoup dans le secret. Et en fait, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Vous savez, hein, l'iceberg, on ne voit qu'un dixième au-dessus. Et il y a 9/10 en dessous. C'est énorme. Hein. Pourtant, c'est une énorme montagne de glace, mais les 9/10 sont en dessous de l'eau. Alors, ce matin, c'est un peu un pot-pourri de beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention dans mes lectures. Et il faut toujours donner un titre, hein, parce que la sono, on nous le demande tout le temps. Alors voilà, le titre, c'est « Attitudes et pensées que Jésus a pointé du doigt. C'est intéressant. J'ai commencé, en fait, dans une histoire que j'ai lue, dans l'Évangile selon Luc. Ça a attiré mon attention, en fait, j'ai eu sur le cœur de continuer sur cette lignée, de relever tout ce que Jésus avait pointé du doigt, et qui pouvait être bien, qui pouvait être mal, mais des choses que Jésus a relevées, dont il a parlé. Et ça va être l'objet de notre partage de ce matin. Donc voilà, le titre c'est « Attitude et pensée que Jésus a pointé du doigt ». Et on va commencer par lire une première histoire dans Luc. Donc tout va être quasiment dans Luc. On peut piocher, hein, j'aurais pu choisir de prendre aussi dans les autres évangiles, mais en fait il y avait tout dans Luc, donc pourquoi se compliquer la vie? Pour ceux qui suivent dans leur Bible, n'auront qu'à tourner les pages du même évangile, ça simplifie les choses. On y va pour cette histoire du centenier. Alors j'ai pas la télécommande, mais t'es là, t'assures. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Vous imaginez, hein, les Juifs qui vont supplier Jésus. Oh, il mérite, je l'ai mis en gras, hein. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » C'est la diapo suivante. Il y a deux diapos parce que c'est long, sinon c'est trop serré. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira, je l'ai mis en gras, hein, le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. J'ai mis en gras, hein, ce qui est pointé du doigt, parce que c'est quand même important. Vous connaissez tous les pharisiens. Pas trop besoin de les décrire. Ils étaient là à argumenter auprès de Jésus en faveur de ce centenier. Ah, quand même, Jésus! Ce centenier, il mérite que tu guérisses son serviteur. Tu te rends pas compte? C'est lui qui a construit notre synagogue. Il aime notre nation. Il est super bien pour nous. Tu vas pas laisser son serviteur mourir quand même. Il mérite ça. Il y a une affiche à l'entrée, hein, qu'on peut le mettre en silencieux ou en mode avion. Alors, on va la laisser l'arrêter. Ah, c'est toujours embarrassant quand ça sonne, hein. Ouais, c'est pas grave. Tu l'as mis en silencieux ? Il est éteint. Bon, voilà. Ça ne se reproduira plus. Voilà, donc, les pharisiens, ils voulaient vraiment faire les avocats et dire, insister, mais il mérite. Devinez pourquoi j'insiste sur ce mérite. Et Jésus, on devine qu'il va guérir le serviteur du centenier justement parce qu'il mérite. Hein? Ben ouais, je vois des noms, hein, ça va, ça me rassure. Ben non, Mais voyez un peu l'approche des pharisiens. En fait, ce qui sort d'eux-mêmes, ce qui sort de la bouche, est révélateur de ce qu'ils ont dans le cœur. C'est biblique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les pharisiens, en exprimant ces arguments, ils ont révélé comment ils fonctionnaient à l'intérieur. Pour eux, il fallait mériter quelque chose. Pour gagner, pour avoir la faveur de Dieu, pour recevoir une réponse positive à nos demandes, il faut avoir travaillé à gagner la faveur de Dieu. On le sait tous, on s'applique à ça quotidiennement, n'est-ce pas? Ça va, hein? Ouais, ça me rassure, vos réactions me rassurent. Ben oui. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus souligne, pointe du doigt, tout ce que le centenier a fait? Pas du tout. Ouais, ben ouais, c'est ce que j'ai mis en gras dans la suite, hein. On reparcourt. Le serviteur du centenier n'a pas du tout le regard sur lui-même, le même regard sur lui-même que celui que lui portent les pharisiens. Les pharisiens le voient comme quelqu'un qui mérite la faveur de Dieu. Lui-même ne se regarde pas du tout comme ça. Il se décrit comme étant quelqu'un qui n'est pas digne que Jésus entre sous son toit. Vous vous rendez compte, on parle de la même personne, hein, le centenier. On voit la description que font de lui les pharisiens et on voit la description qu'il fait de lui-même auprès de Jésus. On parle de la même personne. Les regards sont très différents. Hein. Et on voit le fonctionnement interne des pharisiens et on voit le fonctionnement interne du centenier. C'est fou quand même. Des pharisiens, des docteurs de la loi, des érudits, et puis là un centenier probablement pas converti, qu'on dirait pas chrétien. Mais lui, il avait tout compris. Et il a montré, non pas son mérite, non pas tout ce qu'il avait fait à Jésus, il a tout simplement manifesté sa foi. Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement quelque chose, et je sais très bien que mon serviteur sera guéri. Parce que quelque part, je comprends comment ça fonctionne là-haut. Moi, ici-bas, c'est pareil. J'ai des personnes sous mes ordres, et quand je leur donne un ordre, elles le font. Et toi, Jésus, tu as tout le monde sous tes ordres. Alors, il suffit que tu dises un mot, et je sais, ça va marcher pareil. Et Jésus, qu'a-t-il pointé du doigt? Tous les mérites que vantaient les pharisiens, ou la foi de ce centenier? Vous allez répondre, ben la foi de ce centenier. Jésus, il a mis son doigt sur la foi du centenier. En Israël, il n'a pas trouvé, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que ça rejoint en partie ce que j'avais dit à la dernière prédication. Et oui, même en Israël, Jésus n'avait pas trouvé une aussi grande foi. On passe à la diapo suivante qui nous compare les deux attitudes. Les pharisiens, ils méritent, c'est lui qui a fait. De l'autre côté, le centenier, je ne suis pas digne, je crois. Deux attitudes très, très différentes. On est d'accord? Deux attitudes très différentes. On voit donc le fonctionnement interne des pharisiens, c'est révélateur. Maintenant, je voudrais qu'on médite quelque part sur nous-mêmes. Comment fonctionnons-nous à l'intérieur? Que les pharisiens se sont vendus. Hein. Nous, on est plus prudents. On ne va pas se vendre. Mais quelque part à l'intérieur, est-ce que quelquefois, on n'a pas une pensée où on a l'impression de mériter quelque chose parce que on a fait quelque chose de bien, on a fait une BA, on a fait, et on se dit, le Seigneur, il va me bénir. Alors, on l'avoue peut-être pas, mais est-ce qu'on ne le pense pas quelquefois? Est-ce que quelquefois on n'a pas le sentiment de mériter la paix, la joie du Seigneur parce qu'on a passé du temps avec lui? Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de passer du temps pour le Seigneur. Mais est-ce que quelquefois on n'a pas l'impression, le sentiment de se dire « Oh ben je mérite quand même ». Est-ce qu'on mérite quelque chose? J'ai vu Catherine tout à l'heure qui a dit « On ne mérite rien ». Et oui, c'est vrai. Hein. Quelquefois, on prie. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment de devoir mériter, parce qu'on a passé du temps dans la prière, de mériter l'exaucement à nos prières? On n'a pas ce sentiment-là, quelquefois? Ou alors, quand le Seigneur exauce des prières, on a l'impression que, j'avais prié, c'est ma prière. J'ai prié pour toi. Et quelque part, c'est grâce à ma prière que tu vas mieux. On n'a pas ce sentiment-là, quelquefois? Ou cette pensée qui nous effleure? Est-ce qu'on n'a pas, quelquefois, l'impression où on se dit, c'est normal que je gagne des sous à la fin du mois, j'ai quand même travaillé. C'est mon salaire. Humainement, sur la terre, sur les bases terrestres, c'est vrai qu'on mérite. Mais est-ce qu'on dit merci au Seigneur comme étant une grâce qu'on reçoit parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins au travers de notre travail et de notre salaire? Est-ce que quand on est assis à table, on ne se dit pas j'ai acheté tout ça parce que j'ai travaillé, c'est normal? C'est une grâce que le Seigneur me donne. Et c'est pour ça qu'on prie et qu'on dit merci. Je ne mérite rien. C'est une grâce que le Seigneur me donne. Je pourrais parler de moi aussi personnellement. Vous savez, vous connaissez à peu près tous mon histoire. Quand j'ai été guéri et avant, vous savez, quand j'étais plus jeune, je considérais normal d'être en bonne santé, d'être sportif, parce que je m'entretenais. J'avais jamais fait de bêtises, j'avais jamais bu, j'avais jamais fumé, j'avais jamais fait abîmer mon corps bêtement. Et pour moi, c'était normal que je me porte bien. Aujourd'hui, je ne me le dis plus du tout. Je suis en bonne santé, c'est une grâce que le Seigneur me donne. Je lui en suis reconnaissant. J'étais malade, il m'a guéri, et c'est une grâce dont j'ai été l'objet. Ce n'est pas parce que je me suis entretenu, j'étais une loque. J'étais fichu, il ne restait plus rien de moi, et c'est Dieu qui m'a relevé. Et aujourd'hui, si je me tiens debout, c'est par sa grâce. Et c'est par sa grâce qu'on se lève au matin, qu'on respire, qu'on se réveille. C'est sa grâce. Et est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on n'a pas quelquefois l'impression de se dire « je le mérite quoi, je fais pas n'importe quoi avec mon corps ». Non, c'est une grâce. Et si à un moment On a une pensée où on a le sentiment de mériter quelque chose. Eh bien, il faut qu'on se dise, là, je fais comme les pharisiens. Je raisonne comme les pharisiens, parce que je ne mérite rien. Tout est un effet de la grâce de notre Dieu. Je ne mérite pas, et ce qu'il me donne, c'est dans son amour, c'est dans sa grâce. Ce n'est en aucun cas par mes mérites personnels. Dans Luc 17, 7-10, c'est la diapo suivante. Il y en a sûrement qui ont pensé à ça. Qui de vous, c'est Jésus qui le dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, seins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu pourras manger et boire. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, et c'est à nous qu'il parle, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que quand on a rendu un service au Seigneur, on n'a pas le sentiment de mériter une bénédiction dans notre fonctionnement intérieur? Avouons-le, quelquefois ça nous effleure. Eh bien, on ne doit pas. On doit dire, j'ai juste fait ce que je devais faire. Mais les éventuelles bénédictions, choses bonnes qu'on pourrait expérimenter par la suite, ne sont pas du tout en lien avec ce qu'on a pu faire pour Dieu. C'est un effet de la grâce de notre Dieu. Nous ne le méritons pas. Ce qu'on fait, pardon, on le fait pour Dieu et que le Seigneur nous garde d'avoir un quelconque sentiment de mérite après qu'on ait fait quelque chose. Ça, ce sont les pharisiens qui l'expérimentent, qui le disent, ils se sont vendus en le disant. Le centenier, lui, malgré tout ce qu'il avait fait pour le bien de la nation juive, il a dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ça nous parle quand même. Et il faut qu'on réfléchisse, qu'on médite. Comment ça fonctionne à l'intérieur de moi? Et si on a un quelconque sentiment de mériter quelque chose, ben il faut qu'on le confesse devant Dieu. Seigneur, c'est pas normal. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Voyez, Jésus, en pointant du doigt la foi de ce centenier, il a montré pourquoi il a agi. Parce que c'est écrit ailleurs que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de ceux qui croient en lui. Il ne nous rémunère pas en fonction de ce qu'on fait, mais en fonction de notre foi. En fait, la seule chose qui a vraiment de la valeur, qui va faire bouger le bras de Dieu, c'est la foi qu'on a en lui. C'est toute la confiance qu'on va lui donner. Et Dieu, Jésus, en pointant du doigt la foi, il a passé complètement sous silence tout ce que le centenier avait fait. On est d'accord? Est-ce qu'il l'a relevé? La seule chose qu'il ait relevée, c'est la foi de ce centenier. C'est tout. Et en fait, c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on croit en lui, qu'on lui fasse confiance. Et c'est lui qui agit dans notre vie. On va continuer avec une autre histoire dans Luc 12. J'ai mis un sous-titre, instrumentaliser la prière. Ça aussi, c'est un travers. Dans Luc 12, 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, mais dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Ça, c'est une prière qui était adressée à Jésus. Hein ? On est d'accord ? Une prière, c'est pas forcément se mettre à genoux, joindre les mains, se mettre dans une certaine posture. Là, s'il était au milieu de la foule et il a interpellé Jésus. Alors sûrement que cet individu, ben, il avait face à lui un frère qui ne voulait pas partager l'héritage. Il tenait à son bout de gras, quoi. Il ne voulait pas le lâcher, c'est normal, c'est son héritage. Et il suppliait Jésus de « Écoute, explique à mon frère quand même, il faut qu'il me donne la moitié, quoi, c'est normal. » Jésus, bien sûr, il a exaucé sa prière. Hein. Bah, bien sûr que non. Hein. Non, il lui a dit « Écoute, moi je ne suis pas venu pour ça. Hein. » Jésus n'est pas venu, d'ailleurs il le dit ailleurs, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Le jugement vient après, mais il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour régler nos trucs, mais nous quelquefois dans nos prières. Est-ce qu'on ne demande pas aussi à Jésus, « Oh, fais-lui comprendre que j'ai raison, Seigneur. » Est-ce que ça ne ressemble pas ? De se battre dans la prière pour que tel frère, telle sœur, qui comprenne vraiment qu'il doit me donner ça, que c'est pas juste. Ça ne nous arrive pas ou ça ne nous est pas déjà arrivé ? Bah, bien sûr que si. Bah, là, on fait comme cet individu. Moi, j'ai appelé ça instrumentaliser la prière pour obtenir égoïstement ce que nous, on veut gain de cause, alors on va s'adresser à Jésus, parce qu'on sait que Jésus, il nous écoute et qu'il exauce nos prières. Mais est-ce que c'est lui adresser une bonne prière ? Est-ce qu'il s'agit d'une prière selon le cœur de Dieu ? Bah, bien sûr que non. C'est selon mon cœur, selon ma justice à moi. Mais Dieu, Jésus n'a pas forcément le même regard. Et bien heureusement, il n'a pas ce regard petit de ce monde que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça qu'il lui a répondu, « Ô homme !» Il a répondu avec humour quand même, hein. « Ô homme, qui m'a établi juge pour régler vos problèmes comme ça ?» Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais le but de ce matin, c'est de nous introspecter, qu'au travers de tous ces exemples, on puisse essayer de déceler des indicateurs qui nous montrent que, à l'intérieur, il y a peut-être des choses qui doivent encore être déposées aux pieds du Seigneur pour que son esprit puisse entrer et occuper toute la place. Une autre attitude, la diapo suivante, ne pas jouir de tout ce qui est pourtant à notre disposition. Quand on parle de l'histoire du fils prodigue, on pense au fils prodigue avant tout. Son frère, on n'en parle pas souvent. Ben là, on va s'attarder, pas trop longuement parce que je vois que le temps passe vite, on va s'attarder sur le frère. Donc, on arrive juste à la fin de l'histoire. Hein. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue qui est rentré à la maison, puis voilà, on tue le veau gras, c'est la fête. Et puis là, bah, y a le frère qui entend la fête et qui n'est pas d'accord. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Au passage, il ressemble un peu aux pharisiens, hein. Franchement, j'aurais mérité le veau gras, quoi. C'est pas celui-là là qui méritait, c'était moi. Ouais. Et quand ton fils est arrivé, celui-là, là, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, non mais tu te rends compte, c'est pour lui que tu le veau gras. Je le méritais quand même plus que lui. Et là, le père, il répond, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il n'y a pas besoin de mériter. En fait, le fait qu'il soit à la maison du père, il possédait tout. Le veau gras, il était aussi pour lui. Et il n'en avait jamais joui. Est-ce que nous, sans trop le savoir, on se refuse de jouir de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés? Est-ce qu'on ne se prive pas de ce que Jésus nous a déjà donné? Il nous est dit qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Est-ce qu'on est conscient qu'on possède cette autorité? On possède des richesses par notre Sauveur. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on les saisit? Est-ce qu'on prend cette autorité devant des choses qui nous arrivent? Est-ce qu'on saisit la victoire par la foi ou est-ce que, oh Seigneur, il m'arrive encore ça, tu ne te rends pas compte? Alors que il nous a donné la force et le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et puis, on reste tout petit dans notre coin, alors qu'on possède le pouvoir de gagner contre l'ennemi. Vous croyez pas? Bien sûr que si. Et là, ce grand frère, ou je sais pas si c'était le grand ou le petit, mais en tout cas, ce frère, ben, il n'avait pas conscience de tout ce qu'il possédait. Et en plus, il y avait le côté, mais que j'appelle le côté méritoire, de penser mériter quelque chose et que du coup ce frangin-là, lui vraiment, il méritait pas ça. Mais lui, il l'a obtenu par grâce. Il a joui du pardon du Père. Et nous, on doit entrer dans ce pardon du Père. On n'est pas enfant de Dieu par nos mérites, comme le pensait ce frère. On est devenu enfant de Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Et si tu es encore sur ta chaise ce matin à croire que, ben quelque part, tu mérites d'être ton statut de croyant, ben tu te trompes. Tu es comme ce frère qui croyait mériter quelque chose, ou comme les pharisiens qui croyaient que ce centenier méritait quelque chose. Oublie que tu mérites quelque chose. On a besoin de la grâce de Dieu. On va passer à la diapo suivante. Par quoi suis-je attiré? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui, c'est-à-dire de Jésus. Jésus leur dit, vous, en s'adressant aux pharisiens, hein, ah il osait, hein, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui nous attire ? Est-ce qu'on cherche ce qui est haut ? On cherche le pouvoir ? On cherche la gloire ? Si dans notre fonctionnement interne, on poursuit ce genre d'objectif, alors il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que je poursuis, la Bible me révèle que c'est une abomination aux yeux de Dieu. La diapo suivante, Luc 20, 45. « Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Est-ce que je cherche ce qui est élevé ? On a déjà vu, c'était pas ici, dans une église où on voit les gens qui jouent des coudes pour leur place, responsable de ci, responsable de ça. Est-ce qu'on court après ça ? Est-ce qu'on a envie de courir après ça ? Si on a envie de courir après ça, c'est pas une bonne motivation. C'est vrai, hein ? Ce qui est élevé est une abomination aux yeux de Dieu. On ne doit pas viser une place, un statut. On peut l'être quand même, hein. Moi je suis ancien, mais je vous assure. J'ai pas cherché à l'être, j'ai pas postulé, rien du tout. Ouais. Mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. Il y en faut pour prendre soin de l'Église. Mais ce n'est pas du tout une place et un statut après lequel on a couru un jour, et après lequel on court, et pour lequel on est prêt à se battre pour y rester. Mais vraiment, pas du tout. Et si un jour, il y en a un qui se met à courir vers cet objectif, il fait fausse route. Parce que ce n'est pas du tout le but. Une place élevée, c'est pas du tout la bonne place. Jésus nous a montré l'exemple. Il a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et on est au service. On est au service les uns des autres. Et je vous assure, hier à la patinoire, j'étais heureux de relever les petits jeunes, les ados, ou même des personnes, il y en a qui ne faisaient pas partie de notre groupe, qui étaient par terre, je les remettais sur leurs pieds. Mais j'étais heureux d'être utile, de servir. Parce que quelque part, c'est ce que le Seigneur veut. Qu'on soit au service des uns et des autres. On n'est pas là pour gouverner, on n'est pas là pour manipuler, pour tirer sur des ficelles, pour se battre, faire des coudes, pour garder sa place. On est au service de notre Dieu. Jésus nous demande, nous recommande même de nous garder de ceux qui cherchent les premières places. Ils sont dangereux. Il faut y faire attention. Il ne faut pas suivre leur exemple. Il faut se garder d'eux. Prudence. On va continuer dans la diapo suivante, Luc 18, 9, 14. Se croire supérieur. Il dit encore, c'est Jésus toujours, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. D'ailleurs, j'aime bien ce verset-là. Vous savez, quelquefois dans nos Bibles, il y a un titre en italique. Mais ces titres-là, quelquefois, il faut s'en méfier. Parce que c'est celui qui a traduit la Bible qui les a ajoutés. Ils ne sont pas dans les textes originaux. Et quelquefois, les titres, ils sont dirigés selon une certaine compréhension, une certaine interprétation de la Bible. Mais là, c'en est pas un. Ce verset-là, il fait partie de l'inspiration biblique. Et c'est l'Évangile, c'est Luc, hein, le disciple de Jésus, qui l'a mis, ce verset-là. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ah, ou même, j'ajouterai, comme ce publicain-là. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah, » Faut bien être pharisien. Et le publicain, lui, se tenait un peu plus loin. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et maintenant, c'est Jésus qui l'affirme. Et c'est important de souligner cette parole de Jésus. « Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci, et quand il parle de celui-ci, c'est celui dont on vient juste de parler, vous comprendrez que ce n'est pas le pharisien, c'est le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, c'est-à-dire le pharisien, qui pourtant, quand même, il donne la dîme de tous ses revenus, il jeûne deux fois la semaine, il fait des longues prières et tout. Non mais vous ne vous rendez pas compte? Quand même, il mérite quelque chose. Ben n'empêche que lui, quand il est rentré chez lui, il a tout perdu. Il n'a pas été justifié. Parce qu'il n'a pas été justifié par ses mérites. Par contre, le publicain qui s'est humilié, qui a reconnu sa petitesse, qui a reconnu ses péchés, ben il s'est mis à jouir de la grâce divine. Et lui, il est rentré chez lui justifié, léger. Oh, le pharisien était peut-être léger à son goût, mais en tout cas très léger devant Dieu, dans sa balance. Et vaut mieux être à la place du publicain que d'être à la place du pharisien. Mais dans notre fonctionnement interne, pour revenir à ça, que moi j'aime bien quand même réfléchir à comment je fonctionne à l'intérieur. Le fait de donner. Bon, jeûner, j'avoue que c'est pas trop mon fort. Mais il y a plein d'autres choses que je fais. Mais c'est pas pour ça que je mérite quoi que ce soit. Et il faut qu'on se le dise à chacun à l'intérieur. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Je vais continuer. Il faut que j'accélère. Ou alors je fais une série comme Michael y fait. Non, on va réussir à tout manger. Luc 18, 15, 17. Je vais aller vite. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touche. Qu'il les touche. Bon, ça c'est du vieux français, hein. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un de ses petits n'y entrera point. » Notre regard sur les enfants. Et je vais ajouter dans l'Église. Quel est-il? Jésus a pointé du doigt l'attitude des disciples, on est d'accord, hein? D'ailleurs, je me souviens d'un disque 45 tours de mon enfance qui racontait cette histoire. Ouais. Et c'était raconté, hein, il y avait un peu de broderie autour. Et je me souviens, à la fin de l'histoire, c'était cette petite fille qui racontait l'histoire dans le disque. Et elle parlait des disciples quand Jésus leur a fait la remarque. Et parce que Jésus, il était indigné. C'est un mot fort, hein, quand même. Il était indigné. Et cette petite fille, elle racontait l'histoire. Elle se dit, en parlant des disciples, ils étaient rouges comme des tomates. Tellement ils avaient honte de leur attitude par rapport aux enfants. Eh ouais. Parce que les disciples, ils avaient une conception, parce qu'ils ont appris au contact de Jésus. Et cette expérience les a amenés à remettre en question leur vision. Pour eux, les gamins, c'était là-bas. Les autres, c'était par là. Les gamins, dans nos jambes, franchement, ils nous cassent les pieds, qui viennent pas déranger Jésus, hein. Vous restez par là. C'était ça, hein. Je caricaturise, mais c'est ça, hein, j'exagère pas. Qu'a dit Jésus? Effectivement, les enfants, vous restez là-bas, vous n'allez pas déranger les adultes. Ben non, hein, Jésus n'a pas fait ça, du tout. Les disciples n'avaient pas conscience de l'intérêt que Jésus portait aux enfants. Les disciples, ils pensaient que les enfants étaient des êtres humains de seconde classe, qui n'avaient pas accès à Jésus. Ils n'accordaient pas aux enfants le respect que Jésus voulait leur accorder. D'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que l'enfant doit être roi, hein. Je l'ai ajouté, je me suis dit là, il ne faut pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, hein. L'enfant, il n'y a pas question que l'enfant soit roi. Mais il doit être respecté aussi. Les disciples n'ont pas respecté les enfants. Et Jésus les a rappelés à l'ordre. Et vous savez, je sais dans mon boulot, c'est une erreur que j'ai peut-être faite il y a longtemps, que je ne fais plus du tout maintenant. Vous savez, il y a des numéros, on les voit vite, on les repère. Mais si on leur parle d'une façon... toi, t'as intérêt. Je vous assure, on les allume et on va avoir des difficultés avec eux. Si on leur parle avec respect, qu'on les traite, je dirais même avec un respect supérieur aux autres, on les a dans la poche. Mais naturellement, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Jésus le savait. Et il a traité les enfants avec respect. Il a pris du temps pour eux. Il les a pris sur ses genoux. Il les a pris dans ses bras. Il les a bénis. Vous imaginez la scène? C'est beau, hein? Il leur a accordé du respect. Ben oui, ce sont des êtres humains de première classe, comme les adultes. Ils ont aussi accès à Jésus. Et si on ne les respecte pas, ben on n'agit pas selon Dieu. Dieu veut qu'on les respecte aussi. Et si on s'adresse aux enfants d'une manière méprisante, je peux vous assurer qu'on les braque contre nous et ça va être compliqué, c'est sûr. On continue, on va y arriver. Luc 18, 39. Là, vous avez les versets, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous connaissez l'histoire du mendiant aveugle qui criait « Jésus, Jésus, aie pitié de moi !» et que tout le monde voulait faire taire parce qu'il allait déranger le passage serein de Jésus. Là aussi, hein, c'était un peu comme les enfants. Ce pauvre aveugle, mais il voulait une chose, c'était de retrouver la vue. Il a entendu que c'était Jésus. Il a mis tout ce qu'il avait dans ses cris. Et on voulait le faire taire. Qu'a fait Jésus? Il s'est arrêté en route et il l'a appelé. Et il lui a rendu la vue. Quelquefois, il y en a qui veulent crier à Jésus et on aurait envie de leur dire, écoute, c'est pas le moment. S'il te plaît, moins fort, on va se taper la honte. Ben non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Et il l'a guéri. Diapo suivante. Rattrape. Jésus approche de la ville de Jérusalem et il se met à pleurer. Il pleure parce qu'il sait que Jérusalem va être détruite. Et je vais juste lire ce que j'ai mis en gras. Juste avant, le verset 44, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Écoutez bien, « parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Waouh ! Et ça, c'est quelque chose qui est pointé du doigt par Jésus, hein. Ne pas discerner le temps. Ne pas discerner le temps où Jésus, il vient pour nous appeler. Là, Jésus, il était venu. Il était en chair et en os sur la terre, à Jérusalem. Et ils ne voulaient pas de lui. Et ils l'ont crucifié. Et Jésus, il a pleuré sur cette ville. Parce qu'ils n'ont pas connu le temps où Jésus est venu en chair et en os au milieu d'eux. Jésus, il était profondément attristé par l'aveuglement de Jérusalem. Parce que Jésus ne pleurait pas pour rien. Il n'a pas pleuré beaucoup de fois. Dans Jean 11, 35, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura quand il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare. Et là, Jésus a pleuré à nouveau sur Jérusalem. Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Je continue dans 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est toujours dans ne pas discerner le temps, hein. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous n'avez pas l'impression qu'on parle des temps d'aujourd'hui ? Ne pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. Ailleurs, il y a aussi question des guerres et des bruits de guerre. Nation qui s'élève contre une nation. Ce n'est pas ce qu'on voit, hein. Tremblement de terre. Il y en a de plus en plus. Les famines. L'eau qui menace à des endroits, parce qu'il y en a beaucoup trop, et qui manque cruellement à d'autres endroits. Le mal qui progresse, l'abandon des valeurs bibliques. Et je voulais ouvrir une petite parenthèse, parce que cette semaine, mercredi, j'étais en formation, et vraiment, je me suis dit, il faut que j'en parle, et ça a sa place là, alors j'en parle. Une formation sur les CPS. Alors, peut-être que Paul et Sophie connaissent, c'est les compétences psychosociales. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Bon, je vais avoir le plaisir de vous apprendre quelque chose. Les compétences psychosociales, c'est la nouvelle mode, hein, à l'éducation nationale, qu'on nous parle de ça. Et il y a eu des mots qui étaient des mots-clés qui ont vraiment attiré mon attention. Il est question d'empathie. L'empathie, c'est ce qu'on appelle, nous, l'amour. Mais en fait, ça a été rebaptisé parce que l'amour s'est tellement mis à toutes les sauces et surtout à la sauce sexuelle qu'on l'a rebaptisé. L'empathie. Dans ces mots-clés, hein, des CPS, et si vous allez voir sur le net, vous allez trouver, il y a la maîtrise de soi, la bienveillance, l'approche positive, que moi j'apparente à la paix et la joie, hein, être positif. Vous vous rendez compte, ce sont des mots-clés qu'on trouve dans les CPS. On ne les a pas déjà rencontrés, nous ? Ben, le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit. Et franchement, quand j'étais en formation, je me suis dit, mais misère, ça y ressemble. Mais vous devinez que ce n'était pas le vrai fruit de l'esprit. Hein. C'est une falsification, une imitation. Et qui est champion en imitation ? C'est le diable, le malin. Et en fait, j'ai pensé à ça, et la façon de réussir à acquérir toutes ces compétences psychosociales, ben, y a la méditation, il y a le yoga, tout ça, qui est en train de débouler dans nos écoles. Hein. Qui se dit pourtant laïque et contre les religions ? Une imitation du fruit de l'esprit. Et moi, j'ai pensé à ce verset, le 3.5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça parle de quoi, ça ? Ça parle de l'imitation du fruit de l'esprit, et ça renie Dieu, qui est la véritable force du fruit de l'esprit. On est d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas là ? Parce que ça, c'est en train d'arriver. Hein. C'est la prochaine vague qui arrive, la nouvelle mode où il va falloir rentrer là-dedans, l'enseigner aux enfants. Et curieusement, en fouillant, je me suis rendu compte que ces compétences psychosociales, elles s'inscrivent dans l'éducation à la sexualité des enfants. Bah, le rapport, il faut aller voir l'éducation nationale pour le trouver. Oui, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. C'est une imitation du fruit de l'esprit sans Dieu. C'est horrible, hein ? La laideur du malin qui imite Dieu et tout ce qui peut couler en nous et qui vient de l'esprit de Dieu. Que là, ça va être imité par une autre source qui n'est pas la bonne. Et ça, ce sont les temps dans lesquels nous sommes. Discerner, vous savez, Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée. Nous, aujourd'hui, nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Et je finis par la dernière diapo, reconnaître l'appel de Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, on ne peut pas le passer avec des si. Quelque part, Dieu, dans son plan de salut, savait que le peuple juif allait le rejeter. Et quelque part, c'est grâce à ce rejet que le salut s'est étendu à tous les hommes, aux païens que nous sommes, que nous étions. Mais si les Juifs avaient accepté Jésus, la destruction n'aurait pas eu lieu. Nous, aujourd'hui, si on ne reconnaît pas l'appel solennel de Jésus envers nous, on aura le même sort. On ne sera pas sauvés. Et aujourd'hui, si tu ne t'es pas encore décidé, sache que Dieu veut que tu reconnaisses ce temps qui est aujourd'hui où Jésus frappe encore à ta porte. Il est temps que tu reconnaisses ce temps pour dire « Jésus, je te donne ma vie. En mon cœur, je choisis de suivre Jésus. » Il faut que tu reconnaisses ce temps et ne pas qu'un jour Jésus n'ait pas pleuré sur toi parce que tu as refusé son salut, comme il a pleuré sur Jérusalem. Mais il faut que tu te décides aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. Amen. Ben, je vais conclure parce que je suis en train de réaliser que c'est Manu. Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as parlé et j'ai partagé ce que tu m'as mis sur le cœur. Je veux que tu nous bénisses, Seigneur, et que tu nous aides à avancer et comprendre en profondeur ce qui peut encore nous animer à l'intérieur et qui ne devrait plus. Donne-nous d'y voir clair, donne-nous de discerner à l'intérieur, par ton esprit, les graines qui sont encore mauvaises et qui doivent être chassées de notre cœur et de notre fonctionnement interne. Et donne-nous de briller, Seigneur, comme toi, selon ta volonté, et d'être conscient que nous avons besoin, infiniment besoin de ta grâce, Seigneur. Amen.